les jardinières.
Soyez les bienvenus chez les jardinières. Durant une heure, nous allons prendre soin de vos potagers et de vos végétaux en tout genre. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Notre spécialiste ce matin, c'est Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
Et bon réveil à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre, les températures ont bien grimpé cette semaine, et tant mieux, et ont même dépassé les 20 degrés au-dessus des 1000 mètres d'altitude. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, que peuvent faire les jardiniers et les jardinières au potager ce week-end ?
Oui, alors le potager regroupe passablement de travaux en ces périodes du mois de juin, bien sûr. On a les dernières plantations de plantons qu'on peut faire, qu'on trouve dans le commerce, qui sont déjà mottés. Ça, c'est intéressant parce qu'on gagne tout de suite 15 jours, 3 semaines de développement. On a des semis qui restent à faire, bien sûr. On a surtout le binage qui est important, nécessaire, indispensable. Parce que le binage, on le sait, on en parlera tout à l'heure, mais ça reste un arrosage gratuit, super arrosage, parce que casser cette capillarité, eh bien, on va garder cette humidité au sol. Ça va éviter évidemment cet enherbement, ces annuels, ces plantes indésirables dans les carreaux. On va mettre de la luminosité au niveau des légumes qui vont s'épanouir. Un peu d'arrosage, un petit peu de récolte déjà de salade, de radis, enfin tout ce qui s'y trouve. Il y a effectivement beaucoup de travail, mais c'est une période passionnante parce que non seulement on a déjà des récoltes et en plus on continue d'implanter, de cultiver pour l'automne, quoi, pour tout ce qui est des futurs légumes à encaver.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Dans la suite des jardinières, nous parlerons arrosage et vous prendrez aussi le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. On attend d'ailleurs vos questions par téléphone au 0970 70 20 20, par formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Et vous aurez la possibilité de joindre une photo ou alors vous avez aussi le choix du SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question et vous nous l'envoyez au 939.
Si pour nous c'est facile de servir un bon verre d'eau fraîche quand il fait chaud, c'est un petit peu plus compliqué pour nos végétaux. Après la pause musicale, nous parlerons arrosage en compagnie de Jean-Pierre Ribaud.
7h, 8h, les jardinières.
Il fait beau et chaud et cette chaleur donne soif. Alors si pour nous c'est simple d'ouvrir le robinet et de se servir un verre, c'est plus compliqué pour les plantes. Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuves et vous allez nous donner quelques conseils pour un bon arrosage. Alors pour commencer Jean-Pierre, est-ce que les plantes ont besoin d'un arrosage quotidien ?
Alors, on peut pas dire qu'elles ont besoin d'un arrosage quotidien toutes les plantes, mais évidemment, il y a certaines plantes qui nécessitent des soins particuliers, surtout en cette période en plus où on est à des températures élevées, avec de fortes bises et puis une terre qui s'est passablement asséchée. Alors, les plantes qui sont indispensables à arroser, c'est évidemment les dernières plantations. Les plantations que vous faites là, cette journée, doivent être obligatoirement arrosées, bien sûr. Après, tout ce qui est de plantes en pot, en container, en bac, en jardin suspendu, tout ce qui peut être de surface très sèche, exposé au soleil et puis où l'humidité du sol constante n'est pas, oui, ces plantes-là, elles nécessitent par ces temps un arrosage assidu. Après, tout ce qui se trouve en terre naturelle, en toutes les anciennes plantations, les plates-bandes, même les carreaux de potager qui sont implantés depuis 15 jours, 3 semaines, qui ont subi les dernières pluies, je vais dire, eh bien, elles seront moins nécessaires en arrosage parce que l'humidité du sol constante est là, les racines se développent, vont tirer cette humidité en profondeur et puis elles nécessitent moins d'arrosage.
Et un bon équilibre est parfois assez difficile à trouver parce que si on met trop d'eau, ça peut provoquer des maladies chez les plantes et trop peu d'eau altère la croissance de ces plantes. Vous avez quelques trucs ou quelques astuces pour savoir si notre arrosage est bon ?
Non, en fait, il n'est pas systématique par plante de savoir quel est la dose à mettre. En fait, c'est propre à chaque plante de s'imaginer, d'observer la plante pour savoir si elle est en souffrance ou si elle a trop d'eau. C'est souvent des problèmes que l'on rencontre dans des éléments en pot, où vous avez des sous-tasses ou dans des bacs avec des rétentions ou des éléments comme ça. Là, c'est problématique parce que, eh bien, il faut doser à juste mesure pour que ni trop ni trop peu, c'est indispensable. indispensable pour avoir une végétation de qualité. Après, si c'est des nouvelles plantations que vous faites aujourd'hui, demain ou de la semaine passée, là vous pouvez pas trop arroser dans le sens où c'est le sol naturel qui va absorber l'excédent d'humidité et puis la plante va se stabiliser sans problème. Je dirais que des plantations récentes ou des semis récents ne peuvent pas être trop arrosées dans le terrain naturel parce que le terrain naturel évidemment il absorbe et puis il va réguler tout ça. C'est vraiment des paramètres propres, des problèmes propres que l'on rencontre dans des bacs. Et puis là, il faut, après, avec l'habitude, on se rend compte volontiers de ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui, la nécessité qu'il faut leur donner à ces végétaux. Mais effectivement, trop d'eau n'est vraiment pas bon, et puis pas assez n'est évidemment pas bon. Alors, à chacun de trouver le juste milieu avec sa végétation dans ses pots et ses bacs.
Une bonne observation. En été, Jean-Pierre, les orages frappent parfois fort. Là, d'ailleurs, quelques orages sont annoncés. Est-ce que si, d'ailleurs, ces orages annoncés, est-ce qu'on peut sauter l'arrosage et laisser faire la nature ?
Oui, alors bien sûr que si on a deux, trois bons orages qui arrivent et puis qui ne fracassent pas tout et puis que l'eau arrive à pénétrer dans le sol, ça va remplacer un ou deux arrosages sur deux, trois jours durant. Après, on a souvent des problèmes selon les terrains. Si ça ravine sur sol parce qu'on a une trop forte densité d'eau et puis que le terrain n'arrive pas à absorber, je vais pas dire qu'elle va arriver à descendre facile et puis ça va vous tirer les terres dans les trous, dans les espaces négatifs. Et puis là, c'est moins intéressant, bien sûr. Alors, des fois, l'avantage, quand on est annoncé avec des orages forts, le binage, de nouveau, c'est un élément qui permet de casser cette croûte terrestre, cette croûte du potager. Et puis, ça va vraiment permettre à l'eau de s'infiltrer facilement dans le sol et puis de ne pas lessiver tout ça.
Et il y a une question qui revient souvent quand on parle d'arrosage. C'est quoi le meilleur moment de la journée pour arroser son jardin ? Plutôt le matin, le soir, en journée ?
Alors je dirais que ce qui est pour le potager, le mieux, ce serait de l'arrosage du soir, parce qu'évidemment on a toute la nuit pour que la plante puisse engorger des réserves, et puis passer la journée d'après. Après, si c'est des plantations qui sont très récentes, avec des plantes qui sont pas très enracinées, eh bien là je dirais que deux arrosages par jour est très bien, le matin et le soir. Après, si c'est des semis, alors là c'est plus compliqué, parce que bien sûr l'arrosage du soir est super favorable, parce que la semence, elle aura le temps de s'engorger d'humidité durant la nuit. L'arroser le matin, c'est aussi positif parce que ça remet un petit coup de fraîcheur. Mais par contre, comme des semis de pelouse à cette période, si vous n'arrosez pas dans le milieu de journée, sur le coup des 1h, 2h d'après-midi, et puis que vous avez un terrain qui se dessèche, à l'évidence, vous allez avoir une catastrophe sur le semis parce que la semence qui se sera mise en germance avec l'humidité que vous aurez donnée, avec les températures que l'on a sur un sol dégarni en plein soleil, ça va causer des dégâts irrémédiables sur la germination. Vous aurez des semences en quantité qui vont périr. Et puis ça va vous donner des semis qui seront très, très clairsemés avec une arrivée de mauvaises herbes conséquentes. C'est souvent des annuelles qu'on a. Alors ces annuelles ne sont pas très, très dangereuses parce qu'on sait qu'à la première tonte, elles vont disparaître. Mais par contre, vous n'aurez de toute façon pas la densité nécessaire de votre semence pour avoir une pelouse de qualité. Et puis là, vous partez pour un, deux mois de combat à ressemer, arroser, remettre de l'engrais. Et puis, personne n'est content. Donc je dirais que, comme par exemple une pelouse à cette période, mieux vaut l'arroser trois fois par jour, sans trop regarder, vraiment un quart d'heure, une demi-heure, selon l'arrosage que vous avez, avec un système automatique, je précise, pour avoir une super pelouse 10 jours après le semis, que d'arroser pendant un mois, un petit peu, quand on a le temps, quand on le veut, et puis ne pas arriver à avoir ce qu'on souhaite au niveau du semis.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Dans la suite, on parlera économie d'eau, histoire de ne pas voir son potager se dessécher sous les rayons du soleil. Et puis aussi peut-être prévoir une sécheresse cet été, mais ça on l'espère pas.
7h, 8h, les jardinières.
À quelques semaines de l'été et des grandes chaleurs, nous prenons soin de votre potager. Et notre spécialiste nous explique comment bien arroser nos plantes. Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuves. Est-ce qu'une eau peut être meilleure pour son potager ? Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser l'eau du robinet ? Est-ce qu'elle est mieux que l'eau de pluie ou l'eau de source ? Ou une plante, pour elle, c'est égal du moment que ça soit de l'eau ?
Alors, au niveau de la qualité de l'eau, il n'y a pas une grande incidence sur la végétation, que ce soit du robinet, de source, de pluie, de bac, de rétention, de ce que vous avez. Non, l'important, c'est de la mettre là au bon moment, au bon endroit, avec parcimonie pour l'aménager, bien sûr. mais que ce soit n'importe quelle sorte d'eau, non, on n'a pas de particularité. On préfère bien sûr une eau qui est un petit peu acclimatée, si c'est une plante un peu délicate, ça veut dire qu'elle soit un peu en température, que de prendre de l'eau de réseau parce qu'elle est très fraîche, mais encore une fois, en général, quand on fait d'arrosage, on est plutôt au plan par plan, sur des jeunes plants qui viennent d'être implantés avec des mottes ou des semis, évidemment, et puis la température du sol avec une eau froide ne pose pas trop de problèmes, l'eau est très vite tempérée, on n'a pas de dégâts par rapport à ça.
Et puis l'année dernière, il a fait très très chaud, on s'en souvient. Les spécialistes annoncent plus ou moins la même chose pour l'été à venir. Jean-Pierre, est-ce qu'il faut mettre en place des choses maintenant pour les futures sécheresses de l'été ?
Alors oui, bien sûr, il y a des mesures à prendre. Ben, tout simplement, par exemple, je dirais que c'est déjà la dernière période maintenant pour faire des semis de plous sur des surfaces, parce qu'on sait très bien que après mi-juin, juillet, août, c'est des mois catastrophiques pour ces jeunes semis. Au niveau potager, bien sûr qu'on fait des semis avec des densités moins grandes. On peut se permettre de mettre une ligne de pois, une ligne d'haricots, puis un peu les arroser. Ce qui est mis en place maintenant avec un peu d'arrosage, va être paré pour passer l'été. Le mieux, c'est de faire des plantations et des semis en lune descendante, on le sait, parce que l'avantage de la lune descendante va faire que les racines vont descendre beaucoup plus rapidement en profondeur, et puis ça va donner de la sécurité aux semis, aux plantations que vous ferez. Et puis, voilà, je crois que... Oui.
Jean-Pierre, est-ce
je perds le fil.
Pas de problème, vous avez expliqué. Le binage aussi est important, qu'on peut déjà pratiquer maintenant pour toujours casser cette croûte terreuse, comme vous nous l'avez expliqué il y a quelques instants. Et pour pallier au manque d'eau, on pourrait installer par exemple un récupérateur d'eau. Est-ce qu'on peut encore installer ça maintenant ?
Alors oui, bien sûr que les récupérateurs d'eau peuvent toujours s'installer. Ils peuvent être en profondeur dans le sol avec des bâches ou des bacs ou quelque chose comme ça. L'avantage de les mettre en sol permet de garder cette eau de qualité. Elle ne va pas tourner, elle ne va pas venir avec de l'algue, elle ne va pas venir verte. Et puis vous pourrez l'utiliser comme vous voudrez à bon escient. Après, si c'est des bacs hors sol, eh bien c'est la même chose. Simplement, s'ils sont pleins de luminosité et puis des bacs transparents, ça va altérer l'eau. Elle pourrait prendre un goût désagréable. C'est encore pas trop problématique pour faire des arrosages sur des jeunes semis, des jeunes plantations, parce que bien sûr, le temps va faire que cette odeur va disparaître. Après, si c'est une eau qui sent pas bon, qui a tourné justement, et puis que vous mettez ça sur une future récolte, à l'évidence, on comprend bien que c'est pas la panacée. Ce que je voulais encore dire au niveau des mesures à prendre par rapport au futur de ces potagers ou ces plantations, bien sûr que maintenant, on peut encore faire des paillages, c'est super important, intéressant parce que ça vous fait un ombrage au niveau du sol, ça va garder cette humidité au niveau du sol, ça va favoriser la pousse. Le binage, on a dit, c'est aussi un arrosage gratuit parce que cette croûte, il faut comprendre, c'est 2-3 cm qui sont très très croûteux maintenant parce qu'on a eu, il y a 3 semaines, un mois, encore de fortes pluies, puis après on a eu des passages de bise conséquents avec de la température, ça a croûté ce sol, le fait que cette terre soit très compacte favorise une évaporation constante parce que l'humidité remonte par capillarité et puis la température de cette terre fait que l'humidité qui arrive à cette température s'évapore, ce qui est dommage parce qu'on la perd. Donc un binage est intéressant pour casser cette capillarité-là et puis ça va aussi permettre justement de lutter contre tout ce qui est de plantes indésirables dans un potager, surtout au niveau des annuelles bien sûr, parce que c'est là qu'on a vraiment des problèmes. Et puis on met cette luminosité au niveau des légumes, ce qui va permettre un épanouissement total et puis des végétaux de qualité.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Ce que l'on vous propose, c'est un point météo et info route, un peu de musique et puis on se retrouve après pour continuer de parler d'arrosage.
Les jardinières.
Eh bien, bienvenue si vous arrivez maintenant chez les jardinières. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves.
Et Jean-Pierre est prêt à répondre à vos questions jardinage. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0970 20 20 pour parler directement à notre spécialiste. Ou alors vous pouvez nous envoyer une photo avec votre question. Ça se passe via notre formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et puis dernière possibilité, vous pouvez nous faire parvenir votre question par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom. Et puis vous nous envoyez ce message au 939.
Jean-Pierre, avant la pause, nous parlions arrosage. On a encore quelques questions à ce sujet à vous poser. Là, on est encore au mois de juin, ce n'est pas encore les vacances, mais si, par exemple, on décide de partir quelques jours en vacances, est-ce que vous avez des conseils pour ne pas retrouver tout sec son potager au retour ? Alors, vous nous avez bien insisté sur le binage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avant de partir en vacances ?
Alors oui, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faire, évidemment, pour, de un, permettre à cet arrosage naturel, s'il en vient ou des orages, de justement pouvoir pénétrer dans le sol, descendre gentiment et puis irriguer cette surface. Après, si vous partez en voyage, et bien évidemment, ce sera juillet, août, et puis à ce moment-là, en général, il n'y a plus de plantation, plus de semis à faire, donc les fraîches plantations ou semis ne seraient plus à arroser, quoique si vous en faites quand même, ou encore vous décidez de planter ou des arbustes, ou je ne sais pas, des éléments en pot, et bien sûr, ça, faudrait vraiment les arroser abondamment avant de partir. Pour ce qui est du potager, il faut comprendre qu'en général, c'est des surfaces qui sont implantées sur des surfaces de terre en épaisseur. Et puis, ce n'est pas des surfaces qui sont très drainées. Et puis, cette profondeur de terre facilite vraiment le maintien de l'humidité au niveau du potager. Par contre, si vous avez des potagers dans des bacs, dans des éléments suspendus, les jardins suspendus, comme on les appelle, qui se réalisent assez couramment, maintenant, ça devient une habitude, et bien, à l'évidence, là, ce sera assez catastrophique, le retour des vacances, si on a des canicule et puis qu'il n'y a pas d'orage, parce que la température extérieure va faire que ce jardin suspendu va venir chaud sur les côtés, vous n'aurez pas d'arrosage, c'est un élément qui est plutôt drainant parce qu'on est en hauteur et puis dessous vous avez souvent du branchage, des éléments comme ça qui vont faire que ça va drainer votre potager, et puis là à l'évidence si vous n'arrosez pas ce potager ou vous ne le faites pas arroser, à votre tour il n'y aura plus grand chose de récoltable. Alors là peut-être ce qu'on peut faire c'est, il y a des petits ordinateurs maintenant qui existe, qu'on pose sur le robinet, qui va permettre un arrosage d'un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, c'est égal. Vous le programmez aussi à quelle période vous voulez que ça arrose. Alors à l'évidence, il faudrait le mettre sur le coup des 5-6 heures pour avoir un maximum d'humidité toute la nuit pour que les légumes puissent faire de la réserve pour passer la journée chaude qui va suivre. Mais ces surfaces-là, si elles ne seront pas arrosées, bien évidemment, vous aurez de grosses casses au retour.
Et Jean-Pierre, expliquez-nous comment est-ce qu'on fait exactement pour arroser nos plantes, enfin notre jardin. Est-ce qu'on arrose uniquement le pied de la plante ? Est-ce qu'on arrose les feuilles ?
Alors dans le potager, en général, on arrose le plant, parce qu'évidemment, la racine se trouve très proche du plant, une salade, un chou, c'est égal. Il n'y a pas besoin d'arroser l'ensemble du carreau. Vous allez faire une grosse consommation d'eau qui ne sera pas très judicieuse. Par contre, au plant par plant, là, vous allez faire de l'économie d'eau, et puis vous pouvez en mettre en abondance à chaque plant. C'est là que cette eau sera le plus intéressant. Par contre, après, si c'est des arbres fruitiers, des arbustes, là, c'est plutôt à distance du tronc qu'il faut faire de l'arrosage, surtout si c'est des vieilles plantations. Si c'est des jeunes plantations, il faut s'imaginer que la racine doit se développer. Et puis d'arroser un petit peu à l'extérieur de la zone racinaire va demander au végétal de s'allonger au niveau de la racine. Ça va lui permettre une stabilité nettement meilleure. Et puis ça va étendre son système racinaire au niveau du sol, qui va lui faciliter une absorption en quantité d'humidité.
Et puis Jean-Pierre, une autre méthode d'arrosage, on peut utiliser des hoyas, l'irrigation par jarre qui consiste à enterrer un pot en terre cuite jusqu'au col. Vous nous expliquez un peu comment ça fonctionne cette technique ?
Oui, bien sûr, c'est le fait de prendre des pots en terre cuite. On va colmater le trou du pot, parce qu'il y a toujours un trou au milieu du pot, pardon, pour ce qui est de la plantation des plantes, parce que sinon ben on pourrait mettre des nénuphars dedans. Donc à l'achat des pots, on a toujours ce trou qu'il faut colmater. On le va colmater avec un coltogoum, en général c'est ce qui va de mieux pour le rendre
un coltogoum.
Oui, le coltogoum, c'est un produit qu'on trouve dans le commerce.
Voilà,
C'est une pâte relativement collante et puis qui est très étanche et puis qui va justement rendre étanche ce trou, colmater ce trou.
Merci.
Pardon. Et puis une fois ce trou vraiment colmaté, bouché, eh bien on va enterrer ce pot jusqu'à peu près aux deux tiers, voire trois quarts de sa hauteur dans le terrain. on va le remplir d'eau et puis le pot en terre cuite étant un élément qui est filtrant, eh bien cette humidité, qui est cette eau qui se trouve à l'intérieur, va se répandre à l'extérieur dans le terrain. Le terrain va l'absorber et puis ça va faire un arrosage de longue date, parce qu'il faut peut-être 2 ou 3 jours pour que ce pot se vide totalement. Et puis l'avantage aussi, si vous en mettez dans votre potager puis qu'il vient un orage, il y a des chances qu'il se remplisse encore et puis qu'il va redonner cette eau dans le temps à la végétation. Bien sûr que c'est un système qui est intéressant. Il ne peut pas se pratiquer à grande échelle parce que ce serait trop compliqué. Mais pour tout un chacun qui a un potager puis qui veut s'amuser, en plus, je trouve que c'est joli, c'est déco, c'est pas désagréable. Il faut seulement aussi savoir que c'est que les pots en terre cuite qui marchent. Il faut qu'ils soient de couleur orange, bien sûr. Il ne faut pas qu'ils soient peints à l'extérieur. Des pots plastiques ne fonctionnent à l'évidence pas. Métal non plus.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On va écouter un peu de musique et puis après on répondra aux questions de nos auditeurs.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. En plus de parler jardinage, on répond à vos questions que vous pouvez nous faire parvenir par différentes manières.
Et oui, la première, c'est par téléphone. Vous aurez la chance de parler directement à Jean-Pierre. Pour cela, vous saisissez de votre téléphone, vous composez le 0 900 70 20 20. Et puis, nous, on répond. Et puis, vous posez votre question. Deuxième possibilité, notre site internet, vous avez un formulaire où vous pouvez joindre une photo. Ça se passe sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et puis, la troisième possibilité, c'est par un message. Vous tapez à jardin, un espace, votre question. Vous terminez par votre nom. Et puis, vous nous l'envoyez au 939.
Jean-Pierre, on a reçu une question de Jannick de Courtelary. Nous avons un olivier dans un grand pot. L'hiver, nous le couvrons pour qu'il soit hors gel. Nous l'avons taillé au printemps. Et Jannick se demande, est-ce qu'il va refaire des feuilles? Où est-il mort? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, eh bien, bonjour Jannick. En fait, le problème de l'olivier... Durant l'hiver, chez nous, on n'a plus trop de soucis de gel parce qu'on n'a plus ces hivers très rigoureux avec des fortes bises. Et puis même si on a encore des hivers très rigoureux avec des fortes bises, si votre olivier il est placé dans un endroit abrité de ces bises, je ne vais pas dire qu'il ne va pas passer d'hiver dehors parce que il est quand même très résistant par rapport à d'autres plantes comme le bananier. Alors il est étonnant que votre olivier qui a passé l'hiver dehors ait perdu toutes ses feuilles malgré qu'il était protégé. J'ai plus de soucis au niveau du fait qu'il a peut-être subi un sec constant, il n'a pas été arrosé, il était peut-être dans un endroit protégé au niveau de l'humidité, il n'a pas pu avoir des pluies ou de la neige qui ont permis un arrosage, vous avez peut-être omis de l'arroser, et puis il est possible qu'il n'ait pas survécu à ce problème. Alors, que faire maintenant? Vous l'avez taillé, bien sûr, on sait aussi qu'une taille, ça limite un peu la végétation aérienne et puis ça facilite la reprise parce qu'on a toujours le même volume de racines par rapport à une taille inférieure de la couronne et puis ça facilite le redémarrage, le débourrement. Mais dans votre cas, il faudrait voir si cet olivier est encore vert, gratté avec une petite pointe, un métal, un coin de l'écorce, voir jusqu'où il est vert. Peut-être qu'il est... Alors s'il est encore vert, il y a des chances qu'il redémarre, il faut vraiment l'arroser et puis le remettre en situation standard, il va démarrer. Mais j'ai fort de crainte qu'il soit plutôt sec d'avoir justement manqué d'humidité et puis qu'il ne va pas redémarrer.
Et du coup, là, c'est fini pour lui.
Oui, alors à l'évidence. Elle peut peut-être essayer de l'arroser, et puis de voir s'il va redémarrer à mi-hauteur pour essayer de sauver la base du tronc. On sait aussi qu'il y a des fois des oliviers qui sont gigantesques, et puis on aimerait vraiment les sauver. Alors si c'est le cas, ben, il n'y a qu'une solution, c'est de l'arroser, puis de laisser faire la nature, et de voir s'il va redémarrer. Mais s'il a subi ce sec durant l'hiver, il faut aussi savoir que toutes ces plantes en pot qu'on garde durant l'hiver, que ce soit des lauriers du Portugal, que ce soit des oranges, des citronniers, toutes ces agaves, il faut absolument les tenir à l'humidité parce qu'évidemment, c'est des plantes qui restent vivantes et puis elles ne peuvent pas être stockées sur une étagère sans arrosage durant l'hiver. Donc, prendre soin durant l'hiver de les suivre en arrosage, de les mettre en protection, bien sûr, au niveau du froid, ça c'est l'évidence, on essaye, on fait, ça marche, mais sans eau, c'est garanti qu'on a de la casse au printemps.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On a encore reçu une autre question de Rosemary des Hauts-Genevais. J'ai semé de la salade à tondre dans un bac et maintenant il y a plein de champignons qui poussent. Elle a joint une photo, je pense que vous pouvez commencer par la décrire, Jean-Pierre.
Oui, bien sûr. Bonjour, Rosemary. En fait, c'est une caissette plastique dans laquelle, Rosemary, vous avez mis un terreau, un substrat qui peut avoir été acheté dans le commerce ou qui peut avoir été produit par vous-même avec votre compost ou un compost de commune. Alors, ce qui se passe dans ces substrats qu'on met dans ces caissettes, ça peut aussi arriver dans les potagers ou ailleurs, bien sûr, c'est la transformation de l'humus. Et puis, cette transformation d'humus provoque un mycélium. Et puis dans votre cas, bien, vous avez ces petits champignons qui poussent en abondance dans la caissette. Ça démontre que votre terreau, ben, il est en transformation, il est encore de qualité. Ça démontre aussi que ça n'a pas manqué d'humidité, parce qu'un champignon sans eau, ben, on peut s'imaginer ce que ça donne. Et puis au niveau de la récolte de votre salade à tondre, eh bien, il n'y a aucun souci, simplement épargnez les champignons, laissez-les dans la caissette ou mettez-les au compost. Je ne suis pas très sûr qu'ils soient comestibles, mais pour ce qui est de la culture de la salade, dans votre cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer le schmilblick. C'est sûr qu'à un moment donné, ces champignons vont disparaître parce que ce mycélium va mourir, parce que bien sûr, l'humus qui est en transformation aura été transformé, va donner des éléments nutritifs et puis fera disparaître ce champignon.
Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir répondu à toutes ces questions. On va se retrouver pour la suite et la fin des jardinières dans un instant.
Les jardinières.
Ce matin, nous avons parlé d'arrosage de votre potager. Pour écouter l'émission et les bons conseils de Jean-Pierre, il va falloir patienter un petit peu. Vous retrouverez tout ça en podcast en cours de matinée sur notre site. Jean-Pierre, avant de vous libérer, aller profiter du soleil, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? On peut par exemple tondre sa pelouse. C'est une bonne idée quand le soleil tape comme ça? Ou est-ce que ça va brûler l'herbe?
Alors non, bien sûr que non, qu'on n'aura pas de dégâts du soleil sur une pelouse qu'on va tondre aujourd'hui. Par contre, à l'évidence, à cette période, il faut rehausser ses tondeuses de 2 crans, 3 crans. Il ne faut pas avoir peur de laisser la pelouse très haute pour justement avoir un maximum d'ombrage et puis éviter cette évaporation de l'humidité du sol. Comme ça, on va entretenir cette pelouse sur le long. Après, pour ceux qui ont la chance, parce que je trouve que c'est une chance, ceux qui ont une pelouse fleurie, qui est vraiment de qualité, parce que maintenant, à cette période, elles sont super fleuries. Là, il faut rehausser encore plus la tondeuse. On pourrait juste se permettre peut-être de tondre que les graminées qui viennent en fleurs, pour laisser s'épanouir toutes ces fleurs. L'avantage du gazon fleuri, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entretien. Elle est beaucoup plus épanouie au niveau de la qualité floristique. Le fait d'être très haut, vous n'aurez pas ces problèmes durant l'été de sécheresse et autres. Et puis pour ceux qui auront encore l'idée de faire des semis de pelouse, je pense qu'il faut commencer de s'imaginer qu'il faut lever le pied dans les plantations de tout ce qui est arbuste et autres. Je pense que c'est plus du tout la bonne période. Et puis pour ceux qui ont des petites plantations, comme on a dit, encore un peu d'arrosage pour parer cet été puis avoir des récoltes de légumes et autres cet automne.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves, dans le Jura. Bon week-end et à bientôt chez Jardinières.
Merci tout le monde et puis bon week-end également à tous.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Les Jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie d'Olivier, pépiniériste à Port-Antruy. Et si vous avez des questions jardinage durant la semaine, n'hésitez pas à nous les faire parvenir tout de suite. Vous pouvez remplir le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Vous pouvez aussi simplement nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et vous nous envoyez ce message au 939. Passez une bonne semaine ensoleillée, je l'espère. Et bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.